Oui, évidemment, il peut y avoir quelques risques de complications. Mais si on prend bien soin de vous, là, ben vous avez des chances de vous en tirer. Quand vous avez mal à la tête, vous ne demandez pas qu'on vous coupe la tête, n'est-ce pas? Ben là, c'est pareil. Vous savez, avec la médecine moderne, là, on peut ressusciter des morts.
Extrait de « Nous aurons les enfants que nous voulons ».
Des chances de m'en tirer. Docteur, je n'ai jamais eu de chance, puis là, je veux pas en prendre. J'élevais toute une famille, mon devoir est fait. Puis maintenant que je pourrais prendre ça un peu plus aisé, m'occuper de moi puis de mon mari, faudrait que je recommence tout. J'ai plus 20 ans, j'en ai 42. J'ai pas la force. Si c'était rien que de le mettre au monde, je m'essayerais peut-être, mais il va falloir que j'élève cet enfant-là. Non, docteur, j'ai bien pensé, c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. Je veux me faire avorter.
Je suis Véronique O'Leary. J'ai initié la création du Théâtre des Cuisines, qui est le premier théâtre féministe au Québec, créé à l'hiver 73-74, et qui existe encore, qui a traversé le siècle.
Ben là, je regrette, là, madame, mais vous me demandez là une chose impossible, hein? Je me refuse à commettre un meurtre.
Je vous comprends, docteur. Mais si votre morale vous empêche de le faire, vous pouvez peut-être me référer à quelqu'un d'autre. Si c'est rien que ça, je suis prête à prendre mes responsabilités.
C'est pas une question de responsabilité, là. C'est une question de devoir. Vous êtes enceinte, puis vous devez avoir cet enfant. Puis pour ma part, en tant que médecin, mon devoir est de vous aider à rendre cette grossesse-là à terme. Puis tant que je ne serai pas absolument certain que cette grossesse pourrait vous tuer, je m'opposerai à l'avortement. C'est moi votre médecin, puis c'est à moi de décider.
Je suis Carole Fréchette. J'ai fait partie du Théâtre des Cuisines de 1974 à 1981. À partir du milieu des années 80, j'ai commencé à écrire pour le théâtre. Je me suis consacrée à ça depuis ce temps-là. J'ai écrit une vingtaine de pièces qui sont traduites en plusieurs langues et qui sont jouées ici et à travers le monde.
Mais voyons, docteur, ça n'a pas d'allure.
Allons, allons, ma petite madame, là, reprenez-vous. C'est sûr que vous aurez une grossesse difficile, là. Je prévois même que vous devrez rester alité pendant les 5 derniers mois avant votre accouchement. Ben, vous aurez probablement des difficultés à vous relever, mais, je le répète, il n'est pas certain que vous en mourrez. Donc, dans ce cas, ni moi, ni l'hôpital n'allons vous accepter pour un avortement.
Je m'appelle Solange Collin. J'ai fait partie de la première équipe du Théâtre des Cuisines pour la création de « Maman travaille pas à trop d'ouvrages ». Et ça a été présent dans ma vie pendant presque 20 ans, c'est-à-dire de 1974 à 1992, à peu près. Et c'est une période extraordinaire.
5 mois au lit? Mais qui va prendre soin de la maison?
Chère madame, là, je pense que vous êtes un petit peu dépressive puis paniquée, hein? Il y a beaucoup de femmes comme ça, d'ailleurs. Ça doit être dans la nature féminine. Bon, écoutez, je vous prescris des calmants, puis je vous ouvre un dossier de maternité. C'est toujours un plaisir pour moi de penser que je vais mettre un enfant au monde.
Nous sortirons de nos cuisines. Un documentaire de Jenny Cartwright en 4 actes. Épisode 1. Nous aurons les enfants que nous voulons.
Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960, est née la République du Mali. Une république indépendante.
Like I said, I think it's only a beginning, and I think, you know, there's a long fight ahead.
Hell no! We won't move!
Les années 60 sont des années volcans. Les éruptions sociales s'alignent et s'enchaînent, tectoniques. Un désir d'indépendance et de décolonisation explose en Afrique. La Chine entreprend sa révolution culturelle. Aux États-Unis, la jeunesse s'oppose à la guerre du Vietnam et les luttes afro-américaines se radicalisent. Il y a Stonewall, qui précipite l'émergence du mouvement queer et la fulgurante arrivée de la contre-culture. La pilule contraceptive fait son apparition. Avant sa mise en marché, elle est testée sur des femmes pauvres de Porto Rico et d'Haïti sans que celles-ci ne soient informées des risques. Officiellement, elle est prescrite uniquement pour réguler les cycles menstruels. L'Église est contre, évidemment, et les médecins catholiques hésitent à la prescrire. Empêcher la famille est un aller simple vers l'enfer. On s'échange les noms des médecins les plus ouverts. Même si elle est imparfaite, la pilule permettra à des millions de femmes d'étudier, de travailler, de planifier leur grossesse, de choisir. En 1967, la docteure Lise Fortier ouvre la première clinique de planification familiale et d'avortement de la province. Elle dit: si c'était les hommes qui portaient des enfants, l'avortement serait un sacrement. L'année suivante, Donna Cherniak et Alan Feingold, tous deux étudiants à l'Université McGill, publient « The Birth Control Handbook », rapidement traduit sous le titre « Le contrôle des naissances ». Le guide aborde la contraception, l'avortement, la justice reproductive. Expliquer comment ne pas avoir d'enfants contrevient au code criminel. 12 éditions et 3 millions d'exemplaires plus tard, Feingold et Cherniak diront à la blague qu'il s'agit de la publication la plus distribuée au Canada après la Bible. C'est dans ce tumulte et cette fougue que le théâtre des cuisines voit le jour.
Solidarité, 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 solidarité.
En mai 68, j'étais à Strasbourg. Mai 68 a explosé, éclaté. Et à l'école de théâtre, ben, il y avait des manifestations.
Véronique O'Leary.
Donc à Strasbourg, c'était pas comme à Paris, mais quand même, il y avait les étudiants qui ont fait la grève. Il y a une grosse université importante à Strasbourg. Et nous, on était en train de monter un Brecht sur la révolution spartakiste. Et donc, notre professeur qui nous faisait travailler la révolution spartakiste nous avait demandé de lire l'histoire des spartakistes, qui sont des révolutionnaires allemands qui voulaient empêcher la guerre, qui étaient vraiment révoltés. Donc, on étudiait cette histoire-là. Arrivent les manifestations. Donc, ça bardait vraiment dans toute la France. Nous-mêmes, on ne pouvait pas recevoir de mandat de nos parents. L'école était obligée de nous prêter de l'argent. Les trains ne fonctionnaient pas. C'était vraiment un grand mouvement populaire.
Le régime gaulliste est un régime fasciste et réactionnaire.
Nos pères ont pu en par les gaz lacrymogènes. Les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils ratissent vraiment à coup de matraque.
Attention, attention, François, il y a un pavé.
Dans toute la France, ça a été plus que les étudiants, donc les ouvriers, les gens dans les usines. Il y a eu des grèves, des occupations d'usines. Ça nous faisait dire, ça y est, c'est le grand jour, comme du temps des Spartakistes. On avait 20 ans. Et, mais en fait, il se passait vraiment des choses extraordinaires, vraiment, vraiment extraordinaires. Et on occupait l'école. Et puis, à un moment donné, les étudiants de je ne sais plus quelle faculté sont venus nous voir en disant « on voudrait faire un coup d'éclat pour réveiller les étudiants. » Ça redescend un petit peu, donc on aimerait ça quelque chose de théâtral. Donc, on a fait une première action théâtrale dont je ne me souviens pas de tous les détails. C'était vraiment de la provocation avec des chaises partout. Je ne me souviens plus, mais ça avait été, c'était dérangeant. Donc, on avait fait ça avec les étudiants là-bas. Et on avait pris goût à faire des choses hors des murs scolaires du théâtre. Plus, moi, j'avais mon amoureux de l'époque qui était comédien, qui était avec le Théâtre populaire de Metz, pas très loin de Strasbourg. Et eux, ils jouaient dans les usines. Donc, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du théâtre, qui allaient vraiment directement là où il y avait les occupations. C'était un moment révolutionnaire, qu'on peut dire. Et ça nous faisait, mais c'est pour ça qu'on fait du théâtre. On va changer le monde. En plus, le Tché était mort l'année d'avant. On avait pleuré. Et pour moi, ça a fait, ben, le théâtre, c'est pour ça, c'est pour changer le monde. L'école était 3 ans de formation pour l'interprétation. Et donc, en 68-69, c'était la dernière année. On finissait en juin 69. En 68, il y avait à l'école une autre Québécoise qui, elle, faisait sa 3e année, Marie-Claire Nolin. Et donc, elle est rentrée fin 68, elle avait fini. Et en 68, au Québec, ça bardait. Et nous, 68-69 en France, ça déclinait. Donc, elle me dit, viens au Québec, c'est ici que ça se passe maintenant. Je ris, là, mais... Tu sais, c'est pas si simple que ça, là. Il y avait d'autres facteurs familiaux, etc., qui faisaient que j'avais peut-être le goût de revenir au Québec, que j'avais quitté à 12 ans. Dès mon arrivée, le quartier où on habitait, c'était le quartier Milton Park, où il y avait de la spéculation, comme toujours. Et il y avait un comité de citoyens très important, citoyens Milton Park. Donc moi, tout de suite, ben, la première semaine que j'arrive, quasiment, j'embarque là-dedans. Et les gens du comité nous disent « ça serait bien si vous faisiez du théâtre ». Ah ben tu vois, j'avais pas fait mes 68 pour rien.
Au Québec, 1969 éclate. 141 grèves sont déclenchées. Une centaine de manifestations secouent Montréal. L'establishment tremble, les églises se vident et la jeunesse est remplie d'espoir. Le taux de natalité chute de 40 %. Un changement législatif permet aux hôpitaux qu'ils désirent d'offrir des avortements thérapeutiques. Les femmes dépendent du bon vouloir des hommes formant les comités chargés de décider si elles y sont admissibles. En 1970, un seul avortement est pratiqué dans les hôpitaux francophones contre 180 dans les hôpitaux anglophones, plus progressistes, qui ne suffisent pas à la demande. L'Église catholique s'accroche à son autorité et les avortements illégaux se comptent par dizaines de milliers. Et femmes hospitalisées à la suite de ces derniers aussi. Dans une grande secousse, la lutte pour le droit à l'avortement libre et gratuit s'amorce en mai 70.
Le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau. Nous voilà devenus des oiseaux. Et dans les cumulus du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau. On commence à se parler en poème. On commence à parler doucement, à se dire je t'aime sur je t'aime. Et ça donne les plus beaux enfants. Et ça donne les plus beaux enfants. Et ça donne les plus beaux enfants.
D'abord, il y avait les cégeps qui avaient commencé. Et il y avait eu des grèves dans les cégeps. Comme me disait Marie-Claire, c'est ici que ça se passe. Mais ça se passait aussi au niveau social. Les luttes syndicales, des luttes de plus en plus... importante. Il y avait le FLQ qui n'avait pas encore fait les actions de 70, mais quand même. Donc, le mouvement indépendantiste, le Québec français. Il y avait Michel Tremblay qui avait fait ses spectacles et qui révolutionnait enfin le théâtre québécois en disant Vous n'avez pas besoin de parler avec l'accent français ou d'écrire avec le français de France. Et ça avait été un choc extra, un choc dans tout le beau sens du mot, d'une transformation de valorisation de l'identité québécoise. Hein, que dans le fond, notre langue aussi, notre culture, elle vaut quelque chose. Il y avait vraiment une grande ébullition au Québec, politique, et qui me faisait dire, ben oui, le théâtre va avoir sa raison d'être, de participer au changement politique.
Fin 69. Des militantes fondent le premier groupe féministe radical québécois, le Front de libération des femmes, le FLF. Elles scandent « Pas de libération du Québec sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans libération du Québec ». Elles savent que leur oppression est intimement liée à la structure de classe de la société capitaliste, que les inégalités ravagent les mouvements politiques, même ceux de gauche. Elles s'inscrivent dans l'histoire avec la première manifestation en faveur de l'avortement libre et gratuit et la publication du premier journal féministe, Québécoise Debout. Elles sont fières et frondeuses. Malgré sa courte vie, le FLF incarne la première étape d'une prise de conscience d'un nouveau féminisme, la révolte.
C'était aussi l'époque, c'était les groupes anglophones, c'est le consciousness raising, c'est de prise de conscience, parler, d'échanger sur ce qu'on vivait, etc., qui était extraordinaire. C'était le premier MeToo, là. C'est le mot aussi. Ah oui, toi aussi. Ah oui, toi aussi. Ah, toi aussi. Oh là là. T'sais, là, on était quelques dizaines, quelques centaines. Et puis maintenant, bon, ben, c'est des millions, donc il y a des progrès. Faut pas que je me décourage trop. Des fois, je dis, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de progrès, mais maintenant, il y a des millions, c'est beaucoup plus. Mais nous, on voulait les millions dans 10 ans. Ça a pris 50 ans, quand même. Alors, le FLF, même si c'était extraordinaire, il y a eu quelque chose, il y a eu comme un épuisement. Celles qui sont sorties de prison étaient brûlées, abîmées. Et donc, elles ne venaient plus forcément aux rencontres. Ça faisait quand même une bonne gang. Et puis, peu à peu, c'est comme ça partait en effilochage. Il y avait aussi des nouvelles qui étaient venues, des jeunes femmes déjà qui étaient très proches de ce qu'allaient devenir les groupes marxistes-léninistes. Donc, ils nous trouvaient bien trop flyés. C'était beaucoup d'ébullition. Et à la fin 71, on a dit, ben, on dissout le FLF. Et on a été deux du FLF, celle entre autres qui s'était beaucoup occupée de la cellule avortement et contraception, Martine Éloi et moi, et deux femmes qu'on connaissait du comité ouvrier Saint-Henri. Donc on a dit, nous on continue. On a repris le centre, qu'on a appelé Centre des femmes, et on a repris entre autres le service d'avortement. Et on a décidé de continuer le journal du premier journal de Québécoise Debout. On avait un plan pour au moins 200 femmes et on était 8 femmes. Mais bon, le plan était bon. Donc, au sein des femmes, on négociait les prix au téléphone. Comme ça, quand elles venaient, c'était réglé. On disait, mais est-ce que tu penses que tu peux payer? Parce que quand même, le médecin, il y a des procès. On montrait que c'était pas juste pour faire de l'argent. Là, c'est comme il y avait une clinique, il y avait, tu sais, ça lui coûtait des sous. Puis il y en avait qui disaient, mais j'ai pas d'argent, des ados et tout ça. Fait que là, on disait, bon, écoute, on va voir ce qu'on peut faire, tu sais. Puis il y en a qui venaient d'Abitibi, donc il y avait le bus à payer. Tu sais, ils venaient de tout le Québec, là. Il y en a qui venaient d'Ontario, il y en a qui venaient du Nouveau-Brunswick. Donc, juste le voyage, tu sais, c'était un coût. Donc, on s'entendait, puis les médecins acceptaient. Et ils nous disaient, si possible, pas plus qu'un gratuit par semaine. Mais tu sais, des fois, on disait, mais là, regarde, ça va être... Elle peut pas. Ils refusaient jamais. Quand elles arrivaient, on les faisait venir par groupe, de, je sais plus, 5-6. Et là, on leur expliquait comment ça allait se passer. On expliquait tout, qu'elles visualisent. Elles étaient terrorisées pour la plupart. Évidemment, ces femmes-là n'avaient jamais vu les dessins de la vulve, les dessins du col de l'utérus. Elles étaient d'une ignorance totale. Comme moi, j'ai été quand j'ai commencé. Tu sais, je m'étais fait avorter, mais j'avais jamais... Je ne savais pas comment c'était fait. Je ne savais pas comment j'étais faite. Tu sais. Donc, les femmes partaient plus préparées. Elles avaient le petit mot, l'adresse. Des fois, elles se prenaient un taxi ensemble. Parfois, il y avait les compagnons. Parfois, non. Parfois, la mère. Parfois, une amie. Parfois, toute seule. Mais là, c'était bien quand ils pouvaient être en auto. Sinon, ils prenaient l'autobus ensemble. Tu sais, ça créait aussi une solidarité. Ils se retrouvaient dans la salle d'attente chez le médecin. Et il y avait toujours une infirmière qui était avec la femme, puis une infirmière qui était avec Morgan Taylor. Après ça, on parlait de contraception. Non, c'était, on parlait en toute la pilule, le stérilet, les condoms. On expliquait après qu'ils auraient des antibiotiques au cas où, qu'il ne fallait pas boire d'alcool. Retournez pas au travail le soir. Il y avait des femmes qui retournaient au travail. Il ne fallait pas que ça se sache. C'était quelque chose. Là. Puis les ados, c'était en cachette des parents. Fait que c'était vraiment, vraiment un tabou, un péché. T'sais, on est en 72-73, là. Et puis, c'était terrible parce que nous, au Centre des femmes, puis au FLF avant, on voyait des femmes arriver vraiment en morceaux. On savait qu'il y a encore des femmes qui mouraient en urgence. Les médecins avec qui on travaillait, il y en a un qui est arrivé une fois en pleurant de ce qu'il venait de voir à l'urgence et dit « c'est horrible ce que j'ai vu ». Une femme est arrivée à l'urgence et elle s'était entrée du dréno. Donc, le dréno, c'est de la soude caustique pour déboucher les toilettes. Et c'était mis dans le vagin. Et dit, tout était brûlé. Tout, l'utérus et tout le vagin, tout était brûlé. Et dit, je ne savais plus quoi faire. Et donc, c'est un exemple de jusqu'où les femmes, elles vont le faire. Elles vont le faire, tu vois. Et il était complètement dévasté. Nous aussi, on pleurait tout le monde ensemble. On pleurait. C'était le comble de l'horreur. Et donc, on n'en pouvait plus d'avoir à défendre ça encore. Tu sais, c'est comme, c'est écœurant que des femmes meurent ou deviennent stériles. Parce que l'absurdité, c'est qu'elles deviennent stériles. Tu sais, parce qu'on veut qu'elles fassent des enfants.
Ça veut-il que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête? Tu ne seras pas mon centre. Que savent-il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Le 21 février 1973, une première perquisition a lieu au Centre des femmes. Dans le numéro de Québécoise debout suivant, les militantes écrivent: 5 policiers qui se sont identifiés comme appartenant à la Sûreté du Québec ont fouillé notre local pendant 1 heure et demie. Officiellement, ils cherchaient des instruments ou des drogues qui auraient pu servir à la pratique d'avortement, une bonne âme ayant, paraît-il, porté plainte. Comme ils n'ont trouvé ni drano, ni broche à tricoter, ils ont oublié la nature du mandat et ont finalement décidé de réquisitionner selon leur bon vouloir, emportant tout autre chose que les instruments d'avorteurs. Dossiers de travail, journaux, etc. Nos fins limiers se sont permis également d'interroger les militantes du centre et même les femmes venues pour les séances d'information sur les méthodes contraceptives. D'ailleurs, un policier de faction assaillait toute femme qui se présentait au centre et lui demandait à brûle-pourpoint « Êtes-vous enceinte? De quoi vous dégoûtez de l'être? » Une perquisition vient toujours nous rappeler que la répression politique, ça existe au Québec.
La La première perquisition, c'était sur Montana, et là, on n'avait pas de double de nos papiers des abonnés de Québécoises debout. Bon, on commençait. Hein. Ils ont tout pris. Tu sais, c'était après octobre, hein? Puis il y avait des filles, on avait été proches d'idées de gens arrêtés. On n'était pas proches terroristes, mais on était de gauche et féministes et pour l'indépendance. Et donc, ça leur donnait des noms. La lutte pour l'avortement devenant très chaud, dans le sens que le docteur Morgan Taylor a été arrêté, emprisonné, les autres médecins ne pouvaient plus continuer, et il fallait envoyer les femmes aux États-Unis. Elles étaient épuisées, elles prenaient l'autobus de nuit, elles se faisaient avorter le matin, elles reprenaient l'autobus l'après-midi. Donc, ça leur coûtait le bus en plus. T'sais, c'était quelque chose. Plus, elles ne parlaient pas anglais. T'sais. Puis, celles qui ne pouvaient pas se le payer, ben, c'était fait. Là. T'sais, ça allait être sans doute des faiseuses d'anges ou des avortements de charlatans. Et Dr. Morgan Taylor nous avait dit, quand il ne trouvait pas beaucoup de médecins à former, parce qu'ils avaient peur, les médecins, ce qui est compréhensible, hein, il disait, si je ne trouve personne, je vais vous former, vous. Et donc, je m'étais dit, ben tiens, si je suis infirmière, je vais en savoir plus, puis je vais être plus protégée médicalement d'être une infirmière que d'être juste une militante féministe qui, en soi, n'est pas très valorisée et pas une preuve de rien du tout. C'est pour ça, entre autres, je pense que j'ai fait mon cours d'infirmière après.
On est en 1973. La saga judiciaire du docteur Henry Morgenthaler fait rage depuis 3 ans. Survivant des camps nazis de la Deuxième Guerre mondiale, il est l'un des premiers médecins canadiens à pratiquer des vasectomies et à prescrire la pilule contraceptive à des femmes non mariées. Il déclare avoir pratiqué plus de 5000 avortements. Il plaide cependant non coupable aux accusations. Il dit, devant une loi qui met en danger les femmes, c'est un devoir moral d'aider.
Dans son témoignage aujourd'hui devant les jurys, le docteur Morgenthaler a admis qu'il a pratiqué des avortements depuis 1968, mais il a refusé de reconnaître que ces avortements avaient été pratiqués illégalement. De plus, le procureur du docteur Henry Morgenthaler, maître Claude Armand Shepard, a fait savoir qu'il ne poursuivra pas le père Desmarais pour outrage au tribunal à la suite de sa déclaration voulant que le docteur Morgenthaler ait assassiné 5000 Québécois.
La judiciarisation du médecin est un terreau fertile où les luttes féministes s'enracinent. 300 personnes s'unissent pour créer un comité de défense à son nom. Le Centre des femmes joint brièvement ses rangs avant de fonder son propre comité de mobilisation en janvier 1974. Par la création de ce comité de lutte pour la contraception et l'avortement libre et gratuit, nous entendons dépasser l'aspect juridique de la lutte. Nous ne voulons pas que notre lutte devienne uniquement une lutte pour le droit des médecins à pratiquer des avortements, mais une lutte véritable et organisée des femmes pour le droit à une sexualité libérée des contraintes d'une grossesse non désirée.
Et donc, moi, comme outil, en fait, mon métier, dont je sortais de l'école, c'était l'école de théâtre. Et même si j'avais dit, je vais faire du théâtre juste pour que le monde change, et que c'est sûr qu'on ne pouvait pas vivre vraiment de ça, je faisais quand même un peu de télévision et tout ça, mais je commençais à trouver ça un peu absurde de faire ça, de passer des auditions pour peut-être jouer des choses qui ne m'intéressaient pas et tout ça. Donc, j'ai peu à peu arrêté ce qui était le milieu dit professionnel. Et là, tout d'un coup, c'était... on va faire une pièce sur l'avortement, parce qu'elle est nécessaire. Et on a toute la matière. Ça fait 3 ans qu'on est avec des femmes, qu'on entend tout ce qu'elles vivent et que nous-mêmes, plusieurs d'entre nous avons vécu des avortements dans des conditions souvent pas faciles. Et donc, j'en parle à d'autres filles du Centre des femmes, j'en parle à des femmes de l'Association de défense des droits sociaux. Je contacte plusieurs filles et je dis, mais écoutez, si on faisait un spectacle avec tout ce qu'on sait, tous les témoignages qu'on a, On a toute la matière, on le sait. Et il y a le premier gros 8 mars qui va se faire, là, ça s'en vient, il va y avoir un gros 8 mars. J'en reviens pas, on a fait ça en 3 mois. Je le relis et je me dis, c'est incroyable, avec des filles qui n'avaient jamais fait théâtre. Sauf que notre matière, on la connaissait. Et l'analyse féministe-marxiste, on la connaissait. Bon, je ne sais plus qui a écrit plus de quoi. Je sais que j'ai écrit pas mal parce que moi, je faisais le méchant. J'aimais ça, faire le méchant. J'adorais ça. C'était mes prémices de clown. Pas que les clowns soient méchants, mais c'est comme... On aime bien représenter la folie du monde dans les clowns. Et donc, le patron était celui qui luttait avec l'Église pour empêcher que les femmes puissent avoir l'avortement. Et avec les docteurs, en fait, tous les hommes qui contrôlaient le pouvoir. Donc, en fait, on était 6-7 et on a créé des personnages. C'était pas compliqué. On voyait 60 femmes par semaine. Donc, les personnages qu'on a créés, elles étaient toutes une synthèse de la réalité.
Extrait de « Nous aurons les enfants que nous voulons ».
Ça coûte cher d'élever des enfants aujourd'hui. Moi, je travaille jusqu'à 5 heures. J'arrive chez nous, puis je travaille encore. Je prenais la pilule, mais le médecin m'a dit d'arrêter. Pour me reposer, qui disait. Je voulais que mon mari prenne des capotes, mais il aimait pas ça. On a pris une chance, puis je suis tombée enceinte. Moi, j'en veux pas d'autres enfants. 2, c'est assez. C'est en masse. Puis mon travail, je suis intéressée à le garder. Puis je veux pas que notre vie change. Maintenant, on arrive bien. J'ai le temps de m'occuper de moi. Moi, ma décision est prise. Je vais me faire avorter.
Oui, tout simplement, on mettait des masques. Ils avaient un masque dit neutre. En fait, on le coupait pour qu'ils puissent parler. Donc, c'était un masque blanc et des costumes d'hommes. Je pense à un queue de pie comme patron. Je ne sais plus ce que j'avais. Un costume sérieux, quand même. Quand tu es patron, tu ne vas pas t'habiller, hein, n'importe comment. Et des masques. Donc, il y a eu des masques qui étaient des masques neutres pour jouer les employés, les ouvriers, les maris. Pour les patrons, les docteurs, les curés, là, on avait des masques, ce qu'on appelle des masques de caractère. Tu vois, on avait un masque qui représentait Trudeau pour l'État. Et puis, le patron avait un masque, je me souviens plus, comme tu regarderas sur les photos. et donc, c'est une tradition, en fait, dans le théâtre. Tous les théâtres, tu sais, le théâtre japonais aussi, c'était des hommes aussi qui jouaient les femmes, et ils avaient des masques. Et donc, on faisait les hommes, et ça passait très bien. On a joué « Nous aurons les enfants que nous voulons » pour la première fois pour le premier gros 8 mars 1974 à Montréal, organisé par les comités de conditions féminines, des syndicats, le Centre des femmes, les ADDS, les femmes immigrantes, donc organisé par les groupes de femmes qui étaient là à ce moment-là. Et le thème était « Ménagères et travailleuses, même combat ». On a loué le sous-sol de l'église Saint-Édouard, dont le curé ne savait sûrement pas qu'on allait jouer une pièce sur l'avortement. Et donc, il y avait près de 3 000 personnes, dont, je ne sais pas, 3/4 de femmes. On avait la trouille, on avait peur. En plus, ça n'arrêtait pas les discours, les chansons. Plein de gens étaient venus parler, Pauline Julien était venue chanter. Il était rendu quasiment minuit quand c'était à nous de jouer la pièce. Puis les gens restaient, là. Il y avait un bar, c'était comme, il y avait plein de monde. C'était une fête. Et ils ne savaient pas du tout ce qui allait venir avec notre pièce, les gens. On arrive, on montait sur des tables, on jouait sur des tables, on avait des micros, on se passait les micros. C'était totalement artisanal. Mais tout le monde était là, tu vois. Et on commence, et ça commence par le témoignage de chaque femme qui dit « Moi, je vis ça, je vais me faire avorter. Oh, » Silence de mort dans la salle. La deuxième, « Je veux me faire avorter. » Comme des monologues à la Tremblay, si tu veux. Chaque femme, les 4 femmes, « Je veux me faire avorter. Oh, » Et après, on voit ce qu'elles essayent chacune. Mais là, t'imagines, c'est « Parce que c'était tabou encore.
Je savais pas ce qu'il fallait faire pour pas avoir de petits.
Il fallait pas jouer avec le feu.
Oui. Mais là, c'est fait, puis je peux pas le garder. Je peux même pas en parler chez nous. Si je le dis à ma mère, elle va m'engueuler comme du poisson pourri pendant des mois. Puis mon père, s'il apprend ça, il va me mettre à la porte.
Ben voyons, des parents, ça comprend toujours leurs enfants. Tu vois, on peut faire un beau petit arrangement. tu vas aller dans une maison pour des filles comme toi, puis à ton accouchement, tu donneras ton enfant à l'adoption. Puis tu retourneras à l'école, comme avant, comme si de rien n'était.
M'envoyer dans un foyer pendant 7 mois, loin de ma famille puis de mes amis, ça n'a pas de bon sens. Puis au bout du compte, m'être forcée de le donner, ce petit-là, à je sais pas qui. J'ai pas envie de le faire juste pour le donner. Il me semble que j'y penserai toute ma vie. Je me demanderai qu'est-ce qu'il a l'air, s'il est bien traité. Non, ça m'intéresse pas votre arrangement. Faut que vous me compreniez, là. Je peux pas le garder. La seule solution pour moi, c'est de me faire avorter. Vous auriez pas une adresse de médecin à me donner?
Mais c'est un crime, là, ce que tu veux faire, là. Hein? Nous, on est là pour t'aider. Mais pas t'aider à faire des choses comme ça. Je suis désolée, mais je peux rien faire pour toi. Puis si tu gardes ces idées-là, tu vas mal finir, ma petite fille. Tu vas mal finir.
C'est si je le garde que je vais mal finir. Grossesse secours. En tout cas, si c'est toute l'aide que vous pouvez me donner, je vais me débrouiller toute seule. Ils sont bien toutes pareilles. Au lieu de t'aider, ils te font un moral. Bien là, tout ce qui me reste, c'est d'aller à l'adresse que ma cousine m'a donnée. C'est pas un médecin, mais vu que j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas le choix.
À la fin de la scène, Madeleine se dirige vers le paravent côté cour, le plus près de la table du boss. Elle va derrière le paravent et fait apparaître la pancarte « Charlatan ». Puis, elle pousse un long cri déchirant.
D'abord, les femmes étaient... T'sais, le silence, on savait que c'était pas un silence, c'est un silence de plomb, on peut dire, mais on savait que c'était comme « OK, on s'est jeté, on se jette, on y va ». Ça marchait, là. Ça... Les femmes étaient avec nous, les gens étaient avec nous. La pièce est vraiment émouvante. Et on démontre vraiment que le travail des femmes sert le capitalisme directement et fait partie des profits du capitalisme. On l'a écrit en 1974, tu vois. Et c'était clair pour nous, mais c'était notre analyse de classe et antipatriarcale. On mettait pour la première fois en spectacle cette analyse-là. Et on distribuait le livre préparé par Donna Tcherniak pour un contrôle des naissances qui était distribué gratuitement. On parlait du sang des femmes, on disait il y a des avortements, on peut référer pour des avortements médicaux, c'est faisable, etc., etc. Donc, on faisait vraiment œuvre d'éducation populaire par l'émotion, par l'explication de la réalité et l'explication théorique, féministe, marxiste, du pourquoi de l'interdit, du droit des femmes de contrôler leur corps.
J'avais décidé d'aller en théâtre. J'ai donc postulé à l'École nationale de théâtre. On m'a refusé. On m'a dit que j'ai été assez talentueuse pour aller jouer tout de suite.
Solange Collin.
Après, j'ai passé les auditions au Conservatoire d'art dramatique. On m'a dit que je serais mieux de choisir un autre métier parce que j'ai un physique de soubrette, un tempérament de tragédienne, donc on m'engagerait jamais. Alors, ça a été le désespoir de ma vie. J'ai effectivement commencé à jouer dans le milieu, au théâtre d'aujourd'hui, par exemple, qui était un théâtre d'avant-garde à l'époque, carrément d'avant-garde, dans le fond d'une cour intérieure sur la rue Papineau, avec André Brassard, Michel Tremblay, Pierre Collin, Rita Lafontaine. Je côtoie plein de gens qui sont impliqués en politique de gauche nationaliste, pas clairement féministe, mais amorcée déjà. Et moi, ben, je m'en vais en Inde pour trouver une raison de vivre que je trouve pas. Après un an, je reviens bredouille. Je travaille et je me dis, la seule passion qui m'intéresse, c'est le théâtre. Alors, je vais y revenir. Donc, je suis des cours de voix, des cours d'interprétation, des cours de danse. Je repasse des auditions sans artifice, sans rien. Et en même temps, j'assiste à la représentation du Théâtre des cuisines « Nous aurons les enfants que nous voulons » le 8 mars 1974.
Où c'est qu'on va le mettre, le septième, dans ce cocheron-là? Ils sont déjà trois par chambre. On n'a pas les moyens de déménager puis de payer plus cher pour un loyer. Le proprio veut déjà nous augmenter de 5 piastres. Puis la nourriture qui monte tout le temps, l'électricité, le chauffage, le linge, on n'arrivera jamais. La seule solution, ce serait de me faire avorter. J'aime donc pas ça, puis ça me fait peur. On sait jamais. Mais franchement, j'ai pas le choix. Je peux pas le garder. Je peux pas l'embarquer dans cette galère-là.
Il y avait 3000 personnes dans la salle, une salle très bruyante, très militante, qui était évidemment très loin de l'année que j'avais passée en Inde, là, à faire complètement autre chose, de plus silencieux, disons. Et puis, on comprenait pas tout ce qui se disait non plus parce qu'il y avait trop de bruit, les gens applaudissaient à la moindre réplique. Mais c'était très vivant, c'était très stimulant. Dans mon milieu, évidemment, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de féminisme du tout. Mais moi, je pense que mon défi d'adolescente, c'était de surtout pas avoir une vie qui allait ressembler à celle de ma mère, encore moins de mes grands-mères. Et plus que ça, j'allais venger ma mère pour la vie qu'elle avait eue et je savais qu'elle en aurait préféré une autre.
Ah, monsieur le curé. Il vient encore de me tomber un malheur sur le dos. J'attends mon septième.
Ben, mes félicitations, ma fille. Un autre don du ciel qui vous honore.
Ben, je vois pas ça du même œil que vous, puis pour tout vous dire, je veux pas le garder.
Mais comment ça, pas le garder? Maintenant que cet enfant-là, il est là, là, ben, il est là.
Non, vous comprenez pas. Je peux pas le garder.
Oseriez-vous commettre un meurtre? Faire de votre corps un tombeau? Avez-vous oublié le rôle sacré que le Seigneur vous a donné? Celui de donner la vie?
Non, 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 monsieur le curé, je sais tout ça, mais il me semble que là, ma part est faite. Hein? J'en ai eu 6. Je suis rendue au bout de mon rouleau. J'ai eu de la misère à me traîner. Je dors plus. Des fois, je pense que je vais virer folle, puis je voudrais pas entraîner les enfants là-dedans.
Votre seul devoir, là, ben, c'est de vous sacrifier pour les vôtres. C'est une épreuve d'accepter un enfant, mais il faut trouver un sens à la souffrance. Vous découvrirez la force nécessaire dans la grâce, ma fille. Puis vous serez récompensé au ciel pour tous les sacrifices accomplis ici-bas.
C'est pas juste une question de force. Il y a notre loyer qui est bien trop petit, puis on n'a pas les moyens de déménager. Puis à part de ça, Roger, il fait pas assez un gros salaire, puis moi, j'ai pas le temps d'aller travailler en dehors.
Hey, vos raisons bassement matérielles, là, ça vaut rien en regard de la vie d'un enfant à naître. Si vous êtes une bonne chrétienne, ben vous devez dépasser le point de vue humain. Il faut voir l'éternité au bout. Puis c'est de l'égoïsme puis de l'orgueil de penser d'abord à vous. Si vous obéissez pas à la loi divine puis vous respectez pas votre rôle de mère, ben vous serez une meurtrière. Puis vous paierez toute votre vie. Les remords puis la honte vous poursuivront jusqu'à votre tombe.
Madame Germain se dirige vers le paravent côté jardin. Elle mime le punch, pendant qu'une femme accroche devant le paravent une pancarte « Manufacture d'enfants ». Elle passe derrière le paravent et sort de l'autre côté avec un bébé dans les bras. Elle pousse une grosse caisse où est inscrit « Allocation familiale ». Elle y plonge le bras pour en retirer un chèque d'allocation familiale. Elle va ensuite s'asseoir, son bébé dans les bras, sur une des deux chaises placées devant le paravent.
Ce qui arrive après la pièce, ce que j'espérais, que peut-être les autres n'avaient pas réalisé, mais j'osais pas leur faire peur, c'est qu'on se fasse demander de jouer beaucoup. Sauf que les femmes des ADDS, ils militaient, puis il y avait leur vie, puis les filles du Centre des femmes aussi, puis c'était pas forcément, ils avaient fait ça pour là, tu vois. Le 8 mars, c'est peut-être un peu, mais c'était comme, mais là, on peut pas faire ça autant. Il est venu beaucoup de demandes. Donc, elles sont parties. Et dans la salle, il y avait deux jeunes femmes qui sortaient d'école de théâtre, qui avaient déjà, qui avaient à peu près mon âge, qui avaient fait des choses, et qui ont fait, mais c'est ça qu'on veut faire.
Moi, j'ai fait d'abord l'École nationale de théâtre comme comédienne.
Carole Fréchette.
Je suis sortie en 1973 et j'ai tenté de faire le métier, comme on dit, mais j'ai joué dans une pièce professionnelle dans un théâtre d'été, à l'été 73. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu ce qu'il fallait faire à l'époque, faire le tour des réalisateurs, des metteurs en scène pour me faire connaître. Et j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Que j'aimais pas être dans cette position-là. Et puis, de demander, d'essayer de me vendre, entre guillemets. J'étais pas du tout dans les groupes féministes, en tout cas. Disons, mon expérience politique, c'est en 68, quand j'étais étudiante au collège, il y avait eu l'occupation des collèges, tout ça, et là, j'avais participé à ça. Donc, j'avais fait un peu partie du mouvement étudiant, quand même. Et là, c'était l'époque de le Bill 63, puis la lutte, les luttes pour la langue française. Puis là, j'ai fait un peu du théâtre de rue pour théâtre d'agitation, là, pour conscientiser les gens. Mais c'était très mince, là, mon expérience militante et ma conscientisation. Mais ce que j'avais, c'est pendant la dernière année que j'étais à l'École nationale, j'avais lu La femme eunuque de Germaine Greer. Et ça a été important pour moi. Ça a été ça qui m'a ouvert, disons, à la réalité ou au questionnement féministe. Moi, je viens d'une famille de 4 filles. Et tout à coup, en lisant ce livre, je reconnaissais mon éducation, l'éducation que j'avais eue. Je reconnaissais plein de choses de ma réalité. Donc, ça a été un truc très important pour moi, ce livre-là. Puis après, j'ai lu Kate Millett et tout ça. Donc, j'étais ouverte et très curieuse de cette façon de féminisme, de tout le questionnement que posait le féministe. Mais c'est tout ce que j'avais comme expérience. À l'été 74, je suis allée au Festival de l'AQJT, qui est l'Association québécoise du jeune théâtre. Une association qui regroupait des compagnies qui faisaient de la création collective. Et j'ai eu une vraie révélation. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et puis là, j'ai rencontré une actrice qui s'appelait Pierrette, qui s'appelle toujours Pierrette Savard. Et on a fait connaissance, puis on est survenu de là en se disant, nous aussi, on va faire un spectacle, on va créer un spectacle et on va faire ça sur le thème des femmes, de la condition des femmes. C'était quelque chose qu'on venait de découvrir un peu à travers différentes lectures. Et donc, on savait pas trop par où commencer. Je me rappelle qu'on a fait quelques petites rencontres et puis on essayait de trouver un thème qui nous intéressait. Puis on s'est dit, on va aller au Centre des femmes. Là, on va prendre des livres, on va essayer de se documenter. Et on est allé là, il y avait Véronique Colléré qui était là, qui travaillait au Centre des femmes, qui nous a accueillis. On lui a raconté notre histoire. On a dit, on veut faire un spectacle, on est des jeunes comédiennes. Elle a dit, justement, nous, on a une troupe qui s'appelle le Théâtre des cuisines. On cherche à recruter en ce moment des femmes. Pourquoi vous venez pas à une réunion? Et puis, je me rappelle que moi, j'étais pas sûre, mais que Pierrette était très emballée. Alors, on est allées toutes les deux. Et puis, ma foi, on a été conquises, on est restées.
Je suis chez moi, je postule au Théâtre des cuisines. Et une journée, je reçois 2 appels. On m'offre un premier rôle à Radio-Canada et on m'offre de devenir membre du Théâtre des cuisines. J'ai refusé le rôle à Radio-Canada et j'ai fait partie du Théâtre des cuisines. Et c'est une aventure qui a duré presque sur 20 ans. Curieusement, je pense que ma scène préférée, c'est quand à la fin, on déroulait cette très longue banderole pour une contraception libre et gratuite. Je me souviens pas, c'était très long, là. Ça prenait toute la largeur de la scène Et je trouvais que visuellement, on était cinq aussi à jouer ça, ou peut-être au début, elles étaient plus. C'était fort comme image. Peut-être que, ouais, cette scène-là, oh, non, il y en a d'autres aussi. Quand les femmes arrivaient avec leur poupée, leur bébé dans les bras parce qu'elles n'avaient pas réussi à obtenir un avortement. Non, ça aussi, c'était des images qui étaient très fortes.
C'était immense, la banderole. Donc, on tenait nos bouts de banderole et on a chanté la chanson « C'est à nous de décider ». Donc, il fallait qu'on l'apprenne. Et Judith Germain, musicienne qui était dans le groupe avec nous, avait composé la musique et facile à chanter. Et donc, on la pratiquait chacune tout seule, tu sais, de notre bord. Et moi, à ce moment-là, une des jobs que j'avais, c'était professeur de français pour les immigrants à la commission Baldwin-Cartier, qui était à une demi-heure du centre-ville. Et j'ai vraiment le souvenir de moi la chantant à tue-tête dans mon mini-vox. Tu sais, c'est comme un souvenir pour moi. Je la pratiquais parce que je la trouvais difficile à chanter, puis je l'aimais beaucoup. Est-ce que tu veux que je la chante? C'est à nous de décider des enfants que nous voulons. C'est aussi à nous de lutter pour changer notre société, pour faire un monde où nous pourrons connaître enfin la liberté. Face à toute répression, nous développons nos armes, combattons notre exploitation. Il est fini le temps des larmes. Combattons notre exploitation, il est fini le temps des larmes. On levait la banderole, là, là, les femmes, là, c'était comme wow, ça pleurait dans la salle, là, puis nous autres aussi, on était. Puis, en même temps, je nous vois avec la, ça, c'est le 8 mars. Regarde la photo, on ne peut pas s'en servir de celle-là pour édition, elle est trop pas bonne. Je ne sais pas si c'est le 8 mars, mais c'était une soirée. C'était dans un lieu de grève aussi, où je ne me souviens plus. Non, c'était pas le 8 mars, parce qu'il n'y a pas les tables derrière. On était floune. Hein? C'est vraiment... Et à la fin, donc, beaucoup de femmes sont venues sur scène nous serrer, nous embrasser. Et là vient une dame que je connaissais qui était une amie de ma mère, qui était à la Fédération des femmes à l'époque, une femme féministe. Donc, cette dame vient me voir et puis elle me dit, tu sais, moi, je suis croyante, je suis vraiment croyante. Puis j'ai toujours été contre l'avortement. Puis elle dit, là, après votre pièce, là, elle dit, je ne pourrais plus jamais être contre une femme qui ne veut pas poursuivre sa grossesse. Puis là, j'ai dit, vous voyez, Gabrielle, c'est juste ça qu'on veut, le libre choix pour les femmes.
Faire l'amour toute crispée parce que j'ai peur de tomber enceinte.
Accepter un enfant qui m'est venu par accident.
L'élever chaque jour pendant 20 ans avec les moyens du bord.
Un enfant qui va partir vendre sa tête, ses bras, pour se gagner une vie comme la mienne où t'as pas le droit de rien décider par toi-même. C'est fini.
Je veux pouvoir dire à mes enfants que je les ai voulus. C'est leur droit.
Je veux pouvoir leur apprendre qu'ils sont venus au monde pour être heureux.
Pour nous aurons les enfants que nous voulons, c'était vraiment très élémentaire. Une table, une chaise, un peu de paravent pour dissocier les espaces de jeu. C'était très minimaliste. Et décor et costumes étaient très minimalistes. En fait, ça paraissait hein, que c'était une pièce qui avait été créée par des militantes et pas par une troupe de théâtre en réalité. Moi, je dirais ça comme ça.
Oui, je pense que les gens dans le milieu du théâtre qui ne faisaient pas ce type de théâtre le trouvaient formellement assez pauvre. Trouvaient, bon, c'est ça, on appelait ça du théâtre à pancarte, puis c'est vrai que, en particulier, par exemple, nous aurons les enfants que nous voulons, c'était vraiment du théâtre à pancarte avec des slogans écrits sur les pancartes et tout ça.
Le centre des femmes qui se fait perquisitionner, les médecins qui se font arrêter, ça n'a pas d'allure.
Moi, quand je les entends parler du respect de la vie, ils me font bien rire.
Pendant ce temps-là, Les charlatans se remplissent les poches.
Je trouve pas ça juste. Pareil qu'ils ont arrêté les médecins qui faisaient des bons avortements.
Je le sais ce qu'il faut faire. On va aller au palais de justice montrer qu'on appuie Morgan Taylor.
Ouais, c'est une maudite bonne idée. Je vais aller préparer des pancartes.
Oh, ça me tenterait d'y aller, mais ça me gêne. Puis à part ça, il y a les petits.
Moi aussi, ça me gêne, mais ça me tente d'y aller. Puis paraît qu'on peut amener nos petits. On y va-tu?
OK, on y va.
Ben, je sais pas trop. Je pense qu'on n'était pas vus du tout. Dans le sens qu'on... C'est vrai, parce qu'on était complètement en dehors du réseau. Et il y a très peu de gens du milieu de théâtre de cette époque-là qui venaient voir nos spectacles, mais parce que ils savaient pas, parce que on les invitait pas et parce que c'était pas annoncé dans les journaux, parce que bon, je pense qu'il y en a eu un peu là de temps en temps, on jouait dans un cégep, tout ça, c'est pas que c'était pas public, mais on n'était pas du tout dans le réseau officiel des théâtres. Et donc je peux même pas dire si la perception était positive ou négative. Je pense qu'on était vu comme un groupe militant et pas tellement comme un groupe de théâtre. L'intérêt de ce qu'on faisait, c'était un intérêt politique et militant. À leurs yeux, c'était pas un intérêt théâtral, je pense. À mon souvenir, je me rappelle qu'on a eu une fois une critique dans Le Devoir, il me semble. Je me rappelle pas qu'est-ce que c'était le contexte. Puis on a eu une critique qui, me semble, était assez positive. Il me semble que c'était pour Moment Travaille Pas. Mais on accordait très peu d'importance à ça. Ce regard-là, le regard d'un critique de théâtre sur ce qu'on faisait, ça nous importait peu. Je me rappelle d'avoir eu le sentiment que c'était très utile ce qu'on faisait. J'avais l'impression que c'était audacieux ce qu'on faisait, puis que c'était utile, que ça provoquait vraiment. C'est, à l'époque, en 1974, parler d'avortement dans un spectacle, c'était quand même très audacieux. Et ça remuait. Les gens, ça remuait. Puis je me rappelle quand on jouait pour des plus jeunes, on a joué dans des cégeps. Et je me rappelle que la discussion, ça tournait beaucoup autour de la contraception aussi, de la responsabilité des gars dans la contraception, par exemple, parce que ça, c'est une chose, je pense, à laquelle on tenait beaucoup, c'est de parler de contraception et de dire que l'avortement, c'est pas une méthode contraceptive, c'est un dernier recours. C'était toute la problématique du contrôle des maternités qui englobait beaucoup plus que l'avortement, qui englobait la contraception et la responsabilité de la contraception et tout ça.
Moi, en tout cas, je veux qu'on explique aux enfants puis aux adolescents c'est quoi la sexualité.
Puis à part de ça, c'est pas toute la lutte pour l'avortement. Il y a des femmes qui en veulent des enfants. Moi, j'en voudrais des enfants un jour. Mais pas dans n'importe quelle condition.
T'as raison, pas dans n'importe quelle condition. Pas sans congé de maternité payé à 100%, par exemple.
Ce qu'il faut aussi, c'est des garderies partout, ouvertes 24 heures par jour, puis gratuites. Puis pas dirigées par je sais pas qui, mais dirigées par les parents, les employés, puis les enfants.
Puis il est grand temps que les hommes prennent leur part de responsabilité là-dedans.
Ça, c'est vrai.
Le 8 mars 1976, 2 ans jour pour jour après la première de « Nous aurons les enfants que nous voulons », le comité de lutte pour l'avortement et la contraception libre et gratuite livre un discours endossé par le Théâtre des Cuisines, le Centre de santé des femmes du quartier et les éditions du Remue-Ménage. Ce même État qui nous interdit d'avorter est, dans les faits, celui qui nous force à le faire. Parce que nous refusons de porter seules les charges de travail ménager supplémentaires que représente un enfant. Parce que nous n'avons pas d'argent, pas de garderie, pas de services ménagers collectifs, pas de congé de maternité. Parce que lorsque nous sommes enceintes, nous perdons trop souvent nos emplois. Parce que les contraceptifs que nous sommes forcés de prendre sont encore trop souvent dangereux, souvent inefficaces, très chers, et que la majorité des femmes les connaissent peu ou mal. Elles sont loin de se douter que le combat sera long. L'an de 30 ans.
C'était le premier épisode de « Nous sortirons de nos cuisines », un documentaire en 4 actes avec Solange Collin, Carole Fréchette et Véronique O'Leary. Interprète, extrait de « Nous aurons les enfants que nous voulons », Marjolaine Beauchamp, Yelena Djukic, Vanessa Landry, Magali Saint-Vincent et Leslie Velasquez. Recherche, réalisation, montage et conception sonore, Jenny Cartwright. Production, David Cherniak. Texte de Jenny Cartwright, sous les conseils historiques de Camille Robert et la révision de Mélodie Drouin et Marie-Hélène Racine. Narration, Elkana Talbi. Conseillère au montage, Natacha Dufault. Mixage, Bruno Bélanger. Recherche musicale, Sébastien Desrosiers, Jenny Cartwright. Archives, Société Radio-Canada. Musique, Le début d'un temps nouveau, voix, René Claude. Paroles et musique, Stéphane Venn. Non, non, tu n'as pas de nom, une chanson d'Anne Sylvestre, interprétée par Pauline Julien. Mille merci à Louise Desmarais pour son impressionnante recension de la bataille pour l'avortement, ainsi qu'aux militantes qui se sont battues et qui se battent encore pour que nous puissions disposer de nos corps librement. Ce documentaire a bénéficié de la résidence de Salon 58, Espace culturel à Marsouis, du programme d'aide à la création de Prime et du programme d'assistance à la production d'Oboro. Il a été produit avec le précieux soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec. Il n'aurait pas pu voir le jour sans l'apport essentiel des centres d'artistes.